Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie et honorée d'être là avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Et nous allons rentrer directement dans votre parcours d'abord et puis votre livre. Fabienne Brugère, vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis, depuis septembre 2014. Vous avez été avant cette date professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et vous avez présidé le Conseil de développement durable auprès de Bordeaux Métropole de 2008 à 2015. Depuis le 29 novembre 2019, vous présidez la COMUE, la COMU, Université Paris-Lumière. Vous êtes responsable, en collaboration avec Guillaume Leblanc, de la collection Diagnostic aux éditions du Bordelot et en collaboration avec Claude Gauthier de la collection Perspective du Caire aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit, au même titre que vous, Guillaume Leblanc. Vous avez dispensé également des cours dans les universités de Hambourg, Munich et Québec. Vous travaillez sur la philosophie de l'art, la philosophie morale et politique. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont ces dernières années, Le sexe de la sollicitude, Philosophie de l'art, L'éthique du care, Faut-il se révolter ? Vous avez dirigé et ou co-dirigé de nombreux livres sur Spinoza, Foucault, Judith Butler, le libéralisme, l'œuvre d'art, puis en octobre 2013, La politique de l'individu. Votre dernière publication, avant celle-ci, date d'avril 2019, chez Stock, « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc vous avez travaillé sur l'espace public, de l'art au XVIIIe siècle, sur le lien entre l'éthique et politique dans la philosophie anglo-américaine contemporaine, sur la théorie féministe et la question de la démocratie. Vous êtes chevalière de la Légion d'honneur depuis avril 2015. Guillaume Leblanc, après avoir longtemps été maître de conférences et professeur à l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux, vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université de Paris, directeur du laboratoire du changement social et politique, LCSP, et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Spécialiste de la pensée de Georges Ganguilhem, vous êtes l'auteur de la première thèse... Ganguilhem, vous êtes l'auteur donc de la première thèse à son sujet, Ganguilhem et la vie humaine. Vous avez ensuite signé plusieurs ouvrages sur ce philosophe, tels que La vie humaine, Anthropologie et biologie chez Georges Ganguilhem. Ganguilhem est énorme. Donc, bon, on va le laisser. Tout en s'intéressant à Foucault et à la question des normes. Donc, vous êtes également l'auteur de Vies ordinaires, vies précaires, Dedans, dehors, La condition d'étranger et Que faire de nos vulnérabilités. Ensemble, vous avez publié un dictionnaire politique à l'usage des gouvernés. Et toujours avec le même ensemble, La fin de l'hospitalité en 2017. Vous venez donc de sortir Le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Votre livre propose de vous accompagner dans un voyage, hein, et vous vous référez d'ailleurs à des grandes histoires de voyage, hein, l'Odyssée d'Homère, Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, que vous déconstruisez. Également, vous déconstruisez les contrées pour un voyage dans le réel, au cœur de la destinée et de la quotidienneté des femmes. Tout d'abord, racontez-nous ce qu'il n'y a pas dans le livre, ce voyage. Comment avez-vous entrepris ce périple ?
Alors, sur ce voyage, c'est d'abord un voyage, on pourrait dire, philosophique, au sens où... Le travail qu'on a fait dans ce tour du monde, c'est vraiment enraciné dans des pratiques féministes, des mouvements féministes dans le monde entier. Et c'est le projet qu'on développe depuis plusieurs années, peut-être d'ailleurs depuis toujours, d'une philosophie de terrain. Enfin, j'ai travaillé moi, au départ sur l'empirisme, donc sur des philosophies qui sont des philosophies de l'expérience, qui, qui repartent des subjectivités, qui repartent des perceptions, des passions, des émotions. Et puis, avec Guillaume, en 2017, on avait fait donc ce livre commun, La fin de l'hospitalité. Et l'idée, c'était de vraiment d'abord identifier des pratiques d'hospitalité, surtout au moment de ce qu'on a appelé la crise d'accueil des migrants en Europe. Et puis, à partir de ces pratiques, d'arriver, on pourrait dire, à opérationnaliser le concept d'hospitalité. Et là, on a voulu faire quelque chose d'un peu similaire du point de vue de la méthode philosophique. Et en ce sens, c'est quelque chose comme un voyage philosophique. C'est-à-dire que on s'est... Alors, pour ma part, j'avais déjà travaillé sur le féminisme. Et on voit bien que depuis un certain nombre d'années, il y a de plus en plus... partout dans le monde, des mouvements féministes, des pratiques féministes, bon, ne serait-ce que ce qu'on appelle cette vague MeToo de 2017, dont tout le monde a entendu parler. Et puis après, il y a dans le monde entier des pratiques féministes, des revendications des femmes. Et donc, on a commencé un voyage... qui était déjà un voyage réel, c'est-à-dire qu'on est allé dans un certain nombre de pays qui sont aussi les pays où on travaille avec un certain nombre de chercheuses ou de chercheurs, l'Amérique du Sud, le Maroc, mais aussi l'Allemagne, l'Amérique du Nord, et puis bien d'autres pays. Et après, ce voyage, on l'a aussi porté de manière virtuelle, parce que forcément, il y a eu cette pandémie. Et donc, on a à ce moment-là travaillé autrement, avec aussi beaucoup de documents sur les réseaux sociaux, beaucoup aussi de visionnage, justement, de différentes occupations de place, des champs aussi. D'une certaine manière, mais peut-être que Guillaume veut préciser quelque chose là-dessus, on pourrait dire identifier des voies et des pratiques.
Oui, bonsoir, merci d'être là, vraiment, ça fait très plaisir. Et on a effectivement, en fait, avec Fabienne, comme on était extrêmement confinés, on s'est dit, on va voyager, on va lui faire un voyage dans la chambre autour de notre... espace vital, on s'est dit on va se donner le monde et on va partir loin de l'endroit où on est confiné. Non, on avait commencé effectivement bien avant et le confinement a donné un sens plus virtuel à notre voyage. Mais ça nous semblait complètement infaisable sur ces questions de pratiques féministes de ne pas faire ce voyage-là, de ne pas faire cette enquête. C'est vraiment une enquête parce qu'on a essayé de mettre entre parenthèses un petit peu un sens... qu'on pourrait avoir une catégorie de féminisme en disant qu'on aurait identifié au préalable. Un peu ce qu'on avait fait sur l'hospitalité aussi. Pour nous, c'est vraiment de la philosophie de terrain. C'est-à-dire on se refuse au départ d'avoir une idée trop précise de ce que serait l'hospitalité, ce que serait le féminisme. Puis ensuite, on va voir sur le terrain si ça correspond, sous quelle forme, etc. Ah, ça correspond, tant mieux. Ah, ça correspond pas. Ben mince, tant pis, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, on a essayé de mettre ça entre parenthèses et vraiment de repartir des pratiques, de repartir. Et donc, on a essayé pendant tout un pas mal de temps d'identifier des voies VOX qui pourraient venir du monde entier, comme ça, sur notre planisphère mentale, pour nous dire des choses, pour nous percuter, vraiment. Une fois qu'on a tenu à ces voix, qui figurent dont certaines, une quinzaine, figurent dans le livre et constituent une écriture à part entière à l'intérieur de notre propre livre, une fois qu'on a tenu à ces voix, on s'est efforcé un petit peu comme si c'était ces voix qui nous arrivaient du monde entier étaient des diamants... que l'on arrivait à ouvrir dans une boîte qui nous venait magiquement, on a essayé de se demander de quelle veine souterraine ces voies étaient provenaient, au fond. Et donc, on a remonté ces veines, on a fait une espèce d'archéologie de ces voix en les mettant en rapport à des événements avec lesquels ces voix étaient en rapport, que ces voix manifestaient. Et c'est comme ça que peu à peu, notre planisphère s'est à palpiter de mille feux ouverts comme ça à l'intérieur du monde. Et notre tour du monde, effectivement, a vraiment pris une forme qu'on a essayé de, en même temps, de vraiment de pluraliser au maximum, parce que ce qui nous a intéressé, c'était justement de voir comment partout dans le monde, de manière très diverse, non unifiée, surgissaient des pratiques. Et donc, on a essayé d'informer ces pratiques sans vraiment vouloir réunifier tout cela autour d'un féminisme. C'est ça qui nous a intéressé de faire, de considérer que chaque partie du monde avait été porteuse de pratiques d'émancipation très intéressantes. Et s'il y a un parti pris philosophique sous-jacent, c'était de refuser, au fond, la dichotomie entre le centre et la périphérie. C'est un tour du monde accentré, quoi. C'est-à-dire, il y a aucune partie du monde qui ne soit pas considérée comme centrale dans le texte. Et donc, forcément, en faisant ce tour du monde accentré, on a percuté le tour du monde de Jules Verne de façon assez symbolique, puisque ce tour du monde de Jules Verne, en 80 jours, il commence dans le nord, en Angleterre, et puis il y a tout un voyage progressif vers l'Orient, dans lequel, à un moment donné, justement, la femme apparaît sous la forme d'une veuve hindoue qui va être sacrifiée et que le virilisme de Passepartout sauve des flammes. Et c'est vraiment merveilleux chez Jules Verne parce que Miss Aoud est, d'une certaine manière, elle parle un anglais parfait, donc elle est réinitialisable dans les termes de sa majesté britannique, et donc elle peut redevenir une citoyenne. Donc c'est un tour du monde quand même très viriliste et colonial. Et non, on a essayé un petit peu de s'écarter vraiment de ces figures-là et de faire un tour du monde à notre façon. Alors, je ne sais pas qui est Passepartout et qui est Phileas Fogg entre nous deux, mais bon, voilà.
Oui, vous l'avez très bien dit, c'est aussi un voyage dans la relecture d'une littérature, c'est aussi un voyage filmographique, hein, avec des références. Donc le voyage s'inscrit dans la douleur, l'injustice, le silence imposé, les violences que subissent les femmes dans le monde entier, légitimées et instaurées par la loi du patriarcat, le pouvoir des hommes. Vous nous amenez alors à la rencontre des formes de résistance, vous l'avez dit, hein, territorialisées, qui sont de trois ordres, l'exit, la voice et les nouvelles loyautés. Je vous laisserai expliquer, mais parlons de l'exit, donc l'exit, se sortir, qui consiste en deux attitudes, la séparation d'avec les hommes, donc la vie entre soi des femmes, et le monde à part, donc où ce qu'on... Dans l'image sont les sorcières, hein, dans cette histoire-là, quoi.
Ouais. Bah, peut-être là-dessus, il faut préciser un autre point de départ de ce voyage. L'autre point de départ de ce voyage, c'est cette fameuse cérémonie des Césars, où Adèle Haenel justement sort, ainsi que quelques autres. Et précisément parce que Polanski a été récompensé comme meilleur réalisateur. Et donc cette sortie avec Guillaume, elle nous a particulièrement intéressés, particulièrement interpellés. On a eu envie vraiment de réfléchir là-dessus, d'autant que un ou deux jours après, il y a eu ce fameux texte de Virginie Despentes. Donc voilà, on se casse, on claque la porte. Et forcément, c'est poser la question de, en termes féministes, sur ce qui était alors en train de se passer, ben, qu'est-ce que c'est que cet événement-là? Qu'est-ce que ça peut bien dire? Et donc, ça veut dire ben, quand un cadre ne convient plus, quand il devient invivable, eh bien, on sort du cadre. Enfin, on claque la porte. On quitte la scène, d'une certaine manière. En tout cas, cette scène-là. Et donc l'exit, c'est ça, d'un côté. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre la tangente, de, de quitter ce cadre qui devient invivable. Et puis de l'autre côté, il y a bien sûr la fuite, mais ou le fait de sortir du cadre, mais il y a aussi la possibilité de la séparation, la possibilité du séparatisme. Et de fait, il y a des pratiques féministes, il y a par exemple des villages de femmes qui existent dans différentes parties du monde, qui reposent sur la base de la séparation à partir d'expériences qui ont été invivables et qui, dans bien des cas, ont été réellement invivables. Enfin, et donc on est parti de ce moment-là qui a quand même beaucoup, je crois, beaucoup marqué en France. Ce texte de Despentes, par exemple, il a quand même marqué beaucoup de monde, beaucoup de femmes. Et puis après, on avait en tête, mais ça peut-être tu veux le reprendre, Guillaume, les catégories aussi d'Albert Hirschman, parce qu'on est des grands lecteurs d'Hirschman.
En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire, on est reparti d'un texte d'Hirschman de 1970 qui a été traduit sous le titre « Défection et prise de parole » bien plus tard, dans lequel Hirschman analyse la façon dont les consommateurs, par rapport à un produit qu'ils estiment défaillant, défectueux, organisent leur mécontentement. Soit de trois manières, montre Hirschman, soit en prenant la voix, donc vraiment en critiquant le produit en question, etc., donc la voice, soit en quittant le rapport, donc en allant chercher un autre produit ailleurs, l'exit, soit d'une manière un petit peu médiane pour Hirschman, en restant fidèle malgré tout, loyaux au produit, tout en exprimant éventuellement un mécontentement, donc une forme de loyauté. Et Hirschman dit dans son texte que cette analyse qu'il fait sur la consommation, elle vaut aussi, et on pourrait la faire, et ce serait intéressant de la faire, pour l'adhésion aux partis politiques, aux syndicats, aux institutions. Donc, il donne une portée complètement incroyable à son analyse. Et ça nous a paru vraiment très, très suggestif pour essayer d'analyser trois types de pratiques féministes, disons. Alors, les premières, on est reparti de la notion de loyauté, en montrant comment, finalement, s'organiser des formes d'exit et de voice à l'intérieur des formes de loyauté. Typiquement, le livre s'ouvre par un chapitre consacré aux chants, à la puissance des chants, et s'ouvre sur une anthropologue américaine qui se rend dans une tribu bédouine en Égypte et qui, là, observe de façon très précise les formes de patriarcat, de loyauté extrême des femmes aux hommes. Et d'un seul coup, elle est confrontée, lorsque les femmes sont séparées, lorsqu'elles sont seules, dans certaines conditions très précises, au fait que ces femmes se mettent à chanter ou à déclamer des poèmes dans lesquels des formes de critiques très très puissantes et très précises à l'égard du patriarcat, à l'égard du rapport aux hommes, apparaissent. Et là, on voit bien comment il y a une forme de puissance féministe qui apparaît dans la loyauté, mais à condition d'être séparée, disons, de pouvoir s'organiser, s'auto-organiser comme un monde séparé. Ça, c'est ce qu'on a essayé de décrire dans la première partie. Et effectivement, on essaye ensuite de voir comment des formes de rupture plus radicales s'établissent, soit parce que, comme Fabienne l'a dit, le geste de l'exit, c'est partir quand ça devient invivable. C'est-à-dire, voilà, ma vie est en danger, je quitte chez moi, je m'en vais, je ne sais pas. Donc, la rupture dans l'exit même, soit que l'exit mène vers une espèce d'élaboration d'une alter-société, hein, effectivement, un village séparé, de quelque chose de très consistant et qu'on documente vraiment. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment dans le livre, c'est le moment où ces formes d'exit conduisent à faire voix autrement, à reprendre une des hypothèses du livre, c'est que, c'est que finalement, l'exit est la condition de la voice. Donc, il n'y a pas de possibilité d'armer la voix, de réarmer la voix, de s'assembler, s'il n'y a pas d'abord un geste de séparation. C'est ça, la condition. Et on s'est servi, disons, de ces catégories d'Hirschman pour essayer de documenter un peu les pratiques actuelles. Un peu comme finalement, ça nous a beaucoup guidé comme modèle aussi, un peu de savoir, un peu comme Philippe Descola, l'anthropologue, dans Par-delà nature et culture, avait essayé de faire une typologie des formes de relations dans les cultures du monde entre nature et culture, en montrant que notre manière de nous séparer, nous occidentaux, de la nature, ça avait été construit, bon, voilà, sur un dualisme qu'on peut faire remonter à Descartes, à Bacon, etc. Mais que ailleurs, dans d'autres aires du monde, ces partages-là n'avaient pas du tout cours. Et donc, il décrit, et cette puissance de description, elle est vraiment au cœur du livre. On a vraiment voulu documenter l'inventivité des pratiques féministes à partir de ces trois, disons, formes, un peu ces trois catégories.
Et peut-être d'ailleurs, ce qu'on peut ajouter là-dessus. C'est que par ailleurs, quand on a commencé ce travail, enfin pour ma part, il y a vraiment un certain nombre de à la fois de pratiques féministes, mais aussi de travaux sur le féminisme que je connaissais mal, qu'on appelle de manière assez générique l'écoféminisme. Et en fait, on a commencé à lire des auteurs ou des autrices plutôt, parce que c'est quand même plutôt des femmes, comme Silvia Federici, Caliban et la sorcière. On a lu aussi Caroline Merchant, la mort de la nature. Et on a retrouvé toutes ces analyses historiques sur les chasses aux sorcières, en fait, 15e, 16e siècle principalement, et la manière dont finalement ces femmes, qui étaient souvent d'ailleurs analphabètes, paysannes, qui cultivaient des terres en commun, qui se retrouvaient les unes avec les autres, qui aussi étaient dans l'optique d'un savoir des plantes, comment tout d'un coup elles ont fait largement en Europe, sur un temps assez long et dans des pays assez différents, elles ont vraiment fait l'objet d'une chasse aux sorcières, de persécution. Et il se trouve que c'est intéressant de voir comment dernièrement tous ces travaux-là ont été nourris, comment du coup ça effectivement ça pose un nouveau regard aussi sur la nature, comment ça correspond parfois dans certaines régions du monde justement à des villages qui se sont structurés autour des femmes et autour de la notion d'économie de subsistance, et donc d'un regard sur la nature qui est un peu un regard aussi sur la terre nourricière, sur l'idée que précisément la nature c'est le soutien à la vie. Enfin, on a découvert aussi tout ce réseau-là des féminismes, et ça c'était vraiment aussi pour nous un déplacement, d'une certaine manière.
Très bien. Donc, l'étape d'après, enfin, même si elles sont liées, hein, c'est la question donc d'entendre, d'écouter. Enfin, ce que vous faites, vous le rendez visible. Mais comment, finalement, puisqu'il y a aussi dans la question de l'exit, vous expliquez bien comment il peut être parfois toléré, hein, par les hommes, ou il est en tout cas une voie privatisé du dedans, hein. C'est-à-dire que c'est l'intérieur qui s'exprime dans la cuisine, dans le linge, dans le hammam, dans ces chants des bédouines en fait entre elles. Mais par contre, il ne doit pas sortir de la pièce, hein. C'est-à-dire qu'il ne doit pas mettre en danger la société des hommes. Et dans l'idée des villages également, il y a la question de la capillarité, quoi. C'est-à-dire finalement, c'est contenu, quoi. Ça peut être comme ça si ça ne devient pas une forme de norme d'organisation. Donc se passe ensuite la question de la voix. C'est-à-dire comment de cet exit-là, il en sort une voix. Donc vous faites une magnifique analyse hein, pour moi et une ode à la parole silencée, étouffée. Un voyage émouvant, vibrant et rageant des voix des femmes de Ni Una Menos, de Me Too, Black Lives Matter, les foulards verts, rouges et tout autre mouvement assemblé et rassemblement qui font entendre dans ce chapitre le cœur au sens de le chant aussi. Hein. Le cœur commun des femmes, les cris déchirés pour atteindre un hurlement auquel la surdité devient insupportable. Vous montrez ici, de manière intelligente, construite, implacable, la convergence des luttes, l'intersectionnalité des souffrances, des combats à travers les humiliations et surtout le déni des violences que subissent les femmes, féminicides, viols, avortements clandestins, exploitation, etc. Donc déjà, si vous pouvez vous exprimer sur cette partie.
Alors, là-dessus... C'est vrai que l'un des points, enfin, c'est-à-dire que l'un des points essentiels du livre, je crois que ça a été vraiment l'idée, enfin, au départ, c'est finalement une idée assez spinoziste. Enfin, on avait en tête cette différence que fait Spinoza entre ce qu'il appelle potestas, justement, le pouvoir sûr. Qui renvoie à la question des rapports de domination, au partage entre dominants et dominés, qui sont d'ailleurs des partages mouvants. Et puis, ce concept de potentia, qui dit puissance, qui dit capacité d'agir. Et à partir du moment où ce qui nous intéressait, c'était les mouvements d'émancipation des femmes, la manière dont, depuis un certain nombre d'années, ils se sont... renouveler, reconstituer. Donc, à la fois, bien sûr, on était sur ce qui arrive aux femmes en termes de rapports de domination, sur la, bien sûr, on peut dire les questions des féminicides, les questions des viols, des harcèlements, les questions des inégalités de salaire. Enfin, bref, on peut bien sûr. Mais on était aussi sur la question de comment les femmes collectivement, crée-t-elle finalement une capacité d'action et donc, on est vraiment parti de l'idée qu'il y avait là-dedans quelque chose de très fort qui était du registre aussi d'une prise de parole, d'une prise de voix. Et ça, c'était vraiment un point de départ. Et puis, on a eu beaucoup de discussions, et d'ailleurs, c'est l'une des voies du livre, et c'est l'un des grands entretiens du livre qui vient d'ailleurs d'être publié dans la revue électronique AOC. On a eu beaucoup de discussions avec la philosophe aussi argentine Véronica Gago, qui est par ailleurs une activiste, enfin une militante féministe, et qui a vraiment fait partie de Ni Una Menos, qui a fait partie aussi de toutes ces femmes qui ont occupé justement la place du Parlement au moment des votes là en faveur de l'avortement libre et gratuit et qui part du fait que vraiment il y a en œuvre dans les mouvements féministes une puissance et que cette puissance elle se constitue dans une temporalité longue avec des processus qui sont aussi des processus liés à des mouvements sociaux qui sont pas forcément uniquement sur la question des violences faites aux femmes ou sur la question de l'oppression des femmes, mais qui peuvent aussi rejoindre la question de l'oppression capitaliste, la question finalement de l'exploitation des ressources par la société de marché. Donc, en fait, on a été... Et en ce sens, le livre est assez réjouissant, malgré... c'est qu'on a été aussi sur vraiment la perspective que se constitue une puissance féministe et donc, d'une certaine manière, un programme politique du féminisme et que ce programme politique est transnational. Que justement, c'est d'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est une vieille phrase de Virginia Woolf. Que dit déjà Virginia Woolf il y a maintenant assez longtemps? Elle dit que ce qui intéresse les femmes, c'est faut pas oublier qu'elle était, et actuellement ça sonne particulièrement, hein, Virginia Woolf, c'était profondément une pacifiste. Elle était profondément atteinte par la guerre. Et elle n'hésite pas à poser vraiment les combats des femmes, les mouvements de femmes, du côté de la possibilité d'un rapport au monde et l'idée que le féminisme peut se constituer de manière justement transnationale. Et donc, nous, on a été aussi vraiment beaucoup là-dessus. Mais je suis peut-être allée un peu loin.
Je vais reprendre la parole aussi. Parce que c'est ça, on est un duo. Donc, il y a beaucoup de voix en chacun d'entre nous. Ça fait énormément de voix. Il faut arriver à s'entendre. Mais non, effectivement, cette question de la voix, elle est vraiment au centre du livre. C'est vraiment comment quelque chose comme une voix des femmes émerge et fait peuple autrement. Et là-dessus, on est parti. Enfin, ça nous a tout de suite frappé. En 68, il y avait ce texte de Michel de Certeau qui était incroyable sur la prise de parole. Au fond, mai 68, qu'est-ce que c'est? Il s'est passé quelque chose de super important en 68, les gens se sont mis à prendre la parole. Et il dit, la prise de parole, ça a été un événement aussi important que la prise de la Bastille en 1789. Et il dit, ça, c'est vraiment ce qui a été central en 68. Mais ça veut dire quelque chose de précis, prendre la parole. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre la parole. Et ça veut dire aussi que les structures auditives officielles sont prises d'assaut. C'est pour ça qu'en 68, il y a eu tel théâtre a été pris d'assaut, voilà. La radio a été prise d'assaut, etc. C'est-à-dire les endroits où la parole se faisait entendre. Et ce qu'on s'est dit, c'est que, ah oui, mais c'est ça, au fond, qui s'est passé 2017, alors sans, justement, on reviendra là-dessus tout à l'heure peut-être, mais 2017 avec MeToo, etc., c'est évidemment, ce sont des voix qui se mettent à compter, à dire moi aussi, voilà ce qui m'est arrivé, etc. Hyper intéressant parce que ça organise tout de suite une internationale de ces voix. Et donc ça passe par-delà les frontières, c'est viral, c'est contagieux, ça fait panique. Et en même temps, c'est pas simplement une prise de parole, c'est une prise d'assaut de la structure auditive de notre temps, qui est Internet, comme au fond les théâtres et la radio des années 70. Là, Internet est pris d'assaut, et pour réclamer une justice de genre, réclamation qui tout de suite devient virale, c'est-à-dire qu'elle organise littéralement un peuple des femmes. Le titre « Le peuple des femmes » qu'on a mis... qui est au centre de notre livre, c'est pas du tout un titre métaphorique. Enfin, c'est pas, il faut pas le prendre comme une image. C'est vraiment ce qui s'organise par-delà les nations. Il se crée une espèce de mouvement transnational, des voix qui s'agrègent les unes aux autres, qui s'assemblent, qui disent ah oui moi aussi voilà, ah mais moi aussi, et d'un mouvement un autre né, etc. Et on a une contagion. C'est au fond. Là où la notion de peuple était toujours liée à une notion un peu exclusive, la figure du peuple des femmes met en avant une notion plus inclusive par des phénomènes viraux de contagion qui n'ont pas les limites classiques que l'idée du peuple avait. Je ne sais pas si on va revenir sur la notion de peuple, mais c'est quelque chose de très important. Ouais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a cette question de prendre la voix et donc que vous expliquez très bien, hein, cette forme de contagion, mais aussi qui part de réalité, hein, qui est la question de la voix collective. Le peuple, c'est aussi la voix collective. Hein, donc comment les voix individuelles font voix collective. Et puis il y a la question aussi qui est très intéressante, qui est la question du rassemblement, c'est-à-dire comment la voix devient mouvement finalement. Revendication collective. Et j'avais noté justement, et vous l'avez dit tous les deux, c'est que ici vous faites la démonstration que la domination acceptée, légitime sur toutes les femmes, justifie la domination capitaliste, la domination raciste, hétéronormative, etc. le hurlement remonte des voix les plus souterraines, celles des femmes pauvres, noires, du Caire, entraînant avec elles des voix subalternes, ce que vous appelez le peuple des femmes plus.
Sur ce peuple des femmes plus, alors déjà, la notion de peuple, il y avait forcément quelque chose d'un peu provocateur, hein, parce que, bon, le peuple des femmes, c'est quand même, dans l'histoire, largement un peuple empêché. Bon, c'est bien sûr la chasse aux sorcières dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi en 1789 et encore en 1794 avec les tricoteuses, ces femmes qui précisément prétendent pouvoir jouer un rôle au moment de la Révolution, qui veulent tellement jouer un rôle qu'on va finalement les appeler les enragées. Bien sûr, on ne va pas leur donner le droit de vote. C'est encore ce peuple empêché, c'est encore 1848, hein, suffrage universel, mais ce suffrage universel, c'est le suffrage universel des mâles. Donc, il y a comme ça, et bien sûr, il n'y a pas que la France. Enfin, on peut faire cette histoire. Donc, c'est le peuple des femmes, c'est toujours un peuple empêché. C'est un peuple empêché, mais c'est aussi, à certains moments de l'histoire, et de plus en plus, finalement, des femmes, des collectifs, dont on peut dire que ces femmes ou ces collectifs, ils réclament justice. Et c'est l'instauration de ce qu'on appelle, en tout cas, c'est une demande de justice de genre. Et la justice de genre, c'est quoi par rapport à la question de l'égalité ? Parce que la question de l'égalité, le problème de la question de l'égalité, c'est qu'on sait bien que l'égalité, elle existe dans un certain nombre même de constitutions, par exemple l'Inde, c'est un pays où dans la constitution figure l'égalité des hommes et des femmes. Et bien évidemment, dans le quotidien des femmes en Inde, il y a plein de mœurs, de règles qui vont à l'encontre de cette égalité. L'avantage de la justice de genre, c'est qu'elle permet de faire référence aux sphères de vie. Donc, bah, comment ça se passe dans telle sphère de vie ? Comment ça se passe dans le domaine domestique ? Comment on peut... Donc, cette question de la justice de genre, elle est absolument essentielle. Après, là-dessus, sur le peuple des femmes plus, l'idée alors il y a deux choses. La première chose, ça a été, on a beaucoup analysé la grève des femmes en Suisse. La dernière, c'est 2019. Et en fait, dans tout le manifeste que les femmes ont rédigé, ces grèves des femmes avec un astérix. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire ? On est regardé, ben, ça veut dire tout le reste, les femmes, enfin tout le reste, toutes celles qui, au nom de l'oppression, au nom de la subalternité, eh bien, peuvent s'ajouter. Ça peut bien sûr, ça peut être les personnes trans, ça peut être les gays, les lesbiennes, mais ça peut être aussi des positions de travailleurs ou de travailleuses pauvres. Enfin, donc, c'est en quelque sorte une image ouverte du peuple, une image inclusive qui fait que la question de l'oppression de genre, eh bien, elle rejoint aussi d'autres formes d'oppression.
Oui, sur cette notion de peuple empêché, on est vraiment parti d'abord de l'idée que le peuple des femmes était un peuple manquant. Voilà, si on est là, c'est les chiffres qui sont terribles. Hein, c'est 87 000 femmes par an qui meurent. Ça fait 870 000 en 10 ans, 8 700 000 en un siècle. Où sont passées ces femmes ? Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Pourquoi n'ont-elles pas existé ? Quel est ce peuple qui a disparu et qui n'a pas pu exister sur les bases de ces revendications? Quand on rajoute les milliers de personnes trans qui sont assassinées au Brésil, ailleurs, partout dans le monde, on a vraiment la construction d'un peuple manquant. Et pour nous, le peuple des femmes, entre guillemets, plus, c'était vraiment ce peuple qui a disparu, qui n'a pas pu se formuler comme peuple. Et c'était très important de repartir de ces spectres, en un certain sens, pour voir comment ils étaient aujourd'hui portés par des revendications populaires, par des mouvements qui dessinent ce qu'on appelle un féminisme d'en bas, et par opposition à un féminisme qui serait d'en haut, c'est-à-dire un féminisme qui, pendant longtemps, quand même, a été porté par les organisations internationales, par certains États, etc. Et en fait, ce qu'on analyse, c'est comment ce féminisme d'en haut n'a jamais pu vraiment aller jusqu'au bout de sa trajectoire émancipatrice, pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons de pouvoir, hein, d'accaparement du pouvoir. Et donc, on a essayé vraiment de repartir de tous ces mouvements d'en bas, comme Niuna Menos, qui, en 2015, se crée, et qui tout de suite dit cela, qui dit nous sommes les voix multiples de celles et ceux qui ne sont plus là, mais de celles et ceux qui continuent à être là et qui continuent à marcher, et de telle sorte que voilà cette connexion entre ce mouvement, par exemple, pour prendre juste cet exemple qui s'est développé en Argentine, puis au Mexique, avec toute la dénonciation des féminicides. Comment ce mouvement-là s'est connecté avec des démarches, par exemple, en Pologne en 2016, octobre 2016, vers le 9 octobre. Comment cette marche en Pologne, elle va engendrer une marche en Argentine, à Buenos Aires, une semaine plus tard. Et voilà, qu'on a commencé sur notre carte à faire tous les voyages avec les trajectoires, etc., on a commencé à voir une espèce de, non pas d'embrouillamini, mais de multiplicité de directions, de mouvements, etc., partout dans le monde, avec des phénomènes qui apparaissaient ici, qui étaient repris là, tel tribunal international de crimes de guerre qui revenait au Japon sous une autre forme en 2000, après avoir été ensuite créé à un autre moment ailleurs, sous l'inspiration du tribunal du Vietnam de 66, etc. Bref, on a vu apparaître ce peuple par les voix, mais vraiment, c'était très important de redonner au peuple des femmes la consistance du manque d'existence, la consistance des meurtres qui, justement, ont été après progressivement dénoncés, d'abord sous la forme de la catégorie de fémicide, puis ensuite sous la catégorie de féminicide, pour montrer comment, justement, il y avait vraiment fémicide, c'est encore l'équivalent d'homicide, alors que féminicide, on est dans une logique intentionnelle autre qui, en plus, mobilise aussi quand même beaucoup l'indifférence de l'État à l'égard de ces crimes. Donc tout ça, on a essayé de le faire apparaître en du coup réfléchissant et en essayant de problématiser davantage cette idée du peuple, parce qu'au fond, pendant longtemps, le terme de peuple, je ne sais pas si on regarde un dictionnaire de la langue française de la fin du XVIIe siècle, le dictionnaire de Furtière, par exemple, c'était, en gros, c'était les pauvres face aux puissants. Hein, donc, puis après, on sait très bien que ces pauvres-là, ils sont organisés en prolétaires au XIXe siècle. Donc le peuple a été un peu absorbé par la notion de prolétariat. Mais en fait, il y a eu une espèce d'identification progressive du peuple à la classe sociale, à la classe des démunis. Et ça a été une première, disons, construction de la figure du peuple. Une seconde construction de la figure du peuple, ça a été ce moment où, au XIXe siècle, peut-être parce que, justement, il y avait des mouvements ouvriers qui s'organisaient, internationaux, etc., on a cherché un petit peu à renationaliser l'idée du peuple. Le peuple, c'était ce qui était dans des frontières nationales, c'est ce qui s'inscrivait dans une souveraineté nationale. Et donc là, on a eu la construction de cette figure très, au XIXe siècle en particulier, très forte de la nation, une nation, un peuple dans des frontières avec une souveraineté avec un chef, etc. Donc toute la problématique du souverain dont on a parlé tout à l'heure et qui était une figure, qui était une problématique très, entre guillemets, viriliste de l'armement, du réarmement des frontières avec ce droit de glaive qui appartient au souverain. Et ce qu'on voit émerger, nous semble-t-il, c'est ça notre hypothèse, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est justement la construction d'une forme d'organisation populaire parce que ça vient d'en bas, parce que ça vient des subalternes, parce que ces subalternes, ce sont des femmes, mais ce sont aussi des migrantes ou des migrants, que la frontière, à un certain moment, justement, elle est un peu ténue, etc., qu'il y a des formes de capillarité qui s'organisent entre les subalternes. Ces mouvements qui viennent d'en bas, ils ont comme caractéristique, justement, de récuser ces frontières, un petit peu, de dire, ah ben non, le sort de nos amis du Brésil nous concerne tout autant que le sort de nos amis de Pologne. Et donc, il se crée un mouvement de sororité extrêmement vaste qui défait la cartographie souverainiste mâle, qui est toujours une sorte de... C'est ce qu'on dit dans le livre. L'assemblée des mâles, entre guillemets, c'est toujours quand même un peu, sans jeu de mots, une mâle assemblée, une mauvaise assemblée. Et ce qu'on a vu et essayé dans le, ce qu'on a vu et repéré dans le livre, c'est des formes de rassemblement effectivement qui se sont propagées par-delà les frontières et qui du coup réenchantent un imaginaire politique du transnational au fond. Le peuple des femmes, c'est un peuple trans au sens aussi transnational.
Peut-être il est important d'ajouter aussi que qu'avec Guillaume, nous sommes aussi des lecteurs, Guillaume un lecteur, moi une lectrice de Jacques Rancière. Et c'est vrai que Jacques Rancière a une lecture des mouvements d'émancipation qui passe par l'idée que le mouvement d'émancipation, politiquement, ce sont justement des individus, des personnes, des collectifs qui ne comptent pas et qui veulent compter. Et ce qui nous semble particulièrement intéressant dans les mouvements féministes d'aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que ce sont des mouvements qui se définissent par une volonté de compter. Et donc, en ce sens-là, d'ailleurs, il y a peut-être une forme de souveraineté aussi, enfin de volonté de souveraineté par l'idée que on veut compter, on veut plus être ce peuple empêché, invisibilisé, l'idée précisément de vouloir compter, d'où aussi les conflits, les dissensions, les violences, parfois verbales, les prises de parole extrêmement compliquées, parce que précisément, c'est un peuple qui veut compter.
Très bien, donc exprimer sa voix et puis proposer une alternative. Je pense que vous allez aussi plus loin, c'est-à-dire que la question des nouvelles loyautés pose aussi la question d'un changement de monde aussi, qui s'appuie sur un nouveau monde, sur les valeurs et les normes du peuple des femmes plus, qui sont aussi ces questions que vous amenez, donc l'écoféminisme, la perméabilité du dedans, du dehors, prendre soin, etc. La question du rapprochement à la nature, du respect de la nature aussi, et qui peut nous permettre aussi de constater ensemble, et vous l'avez très bien dit, que aujourd'hui le monde des hommes de pouvoir qui n'est pas un peuple, et ça vous c'est très intéressant, donc on voit bien le peuple transfrontalier, mais vous créez aussi un peuple parce que vous l'écrivez, c'est-à-dire le peuple il est dans votre écrit aussi, c'est la trace, c'est-à-dire que parce que cette question elle est comment finalement ensemble on va s'appuyer sur la trace et dire, allez, on y va, on fait changement. Et donc, aussi, redire qu'aujourd'hui, on arrive peut-être au bout, enfin, c'est peut-être, malgré le contexte qu'on a aujourd'hui, l'espoir qu'on peut avoir ensemble de ce monde des hommes qui finit d'achever et de détruire à la fois les femmes, mais l'humanité.
Oui, là, je veux bien, effectivement, oui, ça, c'est très juste. C'est aussi comment on a écrit ce livre, un peu la question, qu'est-ce qu'on a fait avec ce livre en tant qu'expérience existentielle, parce que enfin, un livre, ça s'écrit toujours contre son existence à soi. Et donc, bon là, forcément, chacun et chacune parlera en son nom, mais en ce qui me concerne, pour moi, c'était inconcevable d'écrire ce livre seul. Déjà, je tiens à dire, je n'aurais jamais fait ce texte en tant qu'homme, entre guillemets, ça m'aurait semblé être un vol, tout simplement, un vol de voix, Il y a le vol de mort et le vol de voix. Ça aurait été un vol de voix pour moi que de faire ce travail, parce que j'aurais eu l'impression, même si j'avais voulu me constituer en porte-voix, de piquer la voix, quoi, des femmes, des personnes LGBT. Donc j'aurais été un usurpateur et c'était pas possible. Et la possibilité de travailler avec Fabienne, c'était aussi la possibilité que ma voix se désidentifie aussi. Donc ça c'était très important. Et du coup, pour moi, ce livre, ça a été une espèce aussi d'enquête sur ma propre condition d'homme à l'intérieur de... Enfin, à chaque fois, c'était vraiment ça. C'est au fond, qui es-tu en tant qu'homme pour écrire ce genre de travail? Et là, ça a été aussi du coup une sorte, ce que Bourdieu a appelé, quand il travaillait à la fin, il disait, j'ai essayé de faire une forme de socio-analyse. Au fond, c'est peut-être ça un peu, une socio-analyse, c'est-à-dire une socio-analyse de genre. J'ai essayé, au fond, de revenir constamment sur les conditions de genre qui ont construit mon existence, hein, et que j'ai incorporé en tant que homme, entre guillemets, qui peut passer par des gestes, par des attitudes, par des manières d'exister, par des façons d'occuper l'espace, bon, par une capacité de prendre la voix et tout. Ça m'a vraiment intéressé de me demander s'il était possible un petit peu de défaire certaines injonctions à être homme à travers ce propre travail d'écriture. Avec une question très philosophique, hein, c'est au fond... Est-ce que je suis condamné à être ce nom que je reçois? Est-ce que je peux me situer un petit peu à côté de ce nom? Et qu'est-ce que c'est que se situer à côté de ce nom? Bon, il y a la fameuse phrase de Simone de Beauvoir qui est incroyable, bon, qu'on connaît vraiment par cœur, on ne naît pas femme, on le devient, et qui signifie que devenir femme, elle lui donne deux sens. Hein, c'est je deviens cette femme identifiée socialement, qui est assigné à des rôles, etc. Mais premier sens, et puis deuxième sens, j'ai la capacité de m'inventer autrement, de devenir autrement que cette femme-là, de devenir autre. Moi, je dirais que pour moi, la question s'est posée un peu différemment, c'est-à-dire, il me semble, je dirais de cette façon-là, je suis né homme, et la question, c'est comment ne pas trop le devenir. Voilà. Comment ne pas trop le devenir. Jusqu'où aller pour que ça ne soit pas un frein dans la construction d'un peuple, hein, d'un peuple. Et ça, c'était vraiment une question fondamentale. C'est pour ça qu'au début du livre, chacun d'entre nous, on écrit un chapitre qui s'appelle « Concerné ». C'est la question du concernement. Comment est-ce que je vais me poser? L'idée, c'est que voilà, est-ce que je suis un allié? Qu'est-ce que c'est qu'être un allié? Est-ce qu'un allié, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour aider, mais si c'est aider, ça devient très vite colonial, un petit peu comme ça. Bon, c'est pas très quand même fantastique et pas forcément très très sexy entre guillemets. Est-ce que je prends le parti d'eux? Comment placer ma propre voix à l'intérieur de ces voix-là? Et finalement, j'ai été aidé par un groupe de rock africain, qui est un groupe de femmes qui est très intéressant, qui s'appelle les Amazones d'Afrique, et qui, dans un album qui s'intitule La République Amazone, en appel à la venue de ce qu'elles appellent des amazones. Et je trouvais que la formule était vraiment très très intéressante, quoi. Être un amazone, ça veut pas dire être une amazone, évidemment, non, être à côté, mais amazone, c'est quand même un peu guerrier, c'est quand même pas mal, surtout qu'elle fait référence à ces non seulement les amazones dans la mythologie, mais surtout à ces femmes de la province du Dahomey au Bénin qui se sont constituées comme des soldates au XVIIe siècle et qui ont été jusqu'à former un tiers de l'armée du Bénin. Et ça, c'était très, très intéressant. Ça voulait dire qu'on peut être à côté tout en étant justement dans une forme d'activisme. Et ça, ça m'intéressait forcément beaucoup parce que ça me permettait, au fond, de... de trouver à faire agréger ma voix à des voix déjà présentes. C'était fondamental. Et je dirais que dans l'écriture du livre m'a intéressé aussi pour ça, aussi par rapport à tout un ensemble de narrations classiques ou littéraires, etc., où très souvent, on en passe en revue quelques-unes dans le livre, on voit apparaître la femme d'une manière complètement évanescente. C'est très vrai des textes de la mythologie qu'on voit, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée. Il y a tout un mouvement aujourd'hui qui naît au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, où on essaie de redonner la parole aux femmes manquantes des récits de l'Antiquité, par exemple Briseis dans l'Iliade, qui est vraiment une esclave sexuelle, Briseis, d'abord d'Achille, puis ensuite elle passe aux mains d'Agamemnon, puis elle revient à Achille. C'est vraiment l'esclave sexuelle. Et personne, enfin, Homère ne lui donne pas la voix. On ne sait pas qui est Briseis. C'est hyper intéressant d'essayer de réécrire l'Iliade du point de vue de Briseis, comme d'une certaine manière, dans un autre registre, Kamel Daoud a essayé de réécrire L'étranger de Camus du point de vue de l'Arabe qui a été assassiné par Meursault et à qui il essaye de redonner une voix, une biographie. Ça m'est vraiment apparu tout le temps quand Steinbeck, dans Les souris et les hommes, il y a ce meurtre de la femme de Curley avec Georges et Lenny. Et Georges qui finit par dire à Lenny, tout compte fait, je crois que la femme de Curley, c'est une pute. C'est le seul moment où on entend la voix, où on entend quelque chose sur cette femme. Et après, elle est assassinée par le géant comme une souris de plus, et on ne sait rien d'elle. Et moi, ça a été vraiment ça. C'était comment ma voix peut-elle, d'une certaine manière, mettre en relief des effacements narratifs à l'intérieur des grands textes de notre culture, justement, pour essayer de contribuer à ce qu'on appelle dans le livre l'établissement d'un matrimoine, d'une autre manière de faire patrimoine.
Peut-être, oui, la question de l'écriture dans le livre, elle est essentielle, parce qu'à partir du moment où on écrivait un homme, une femme, en couple de surcroît, enfin, il y avait quand même une grosse difficulté à faire ce livre ensemble. Je pense que du coup, il fallait un certain nombre d'inventions d'écriture. Parce que d'abord, il fallait trouver un langage philosophique qui soit à la fois pour Guillaume et pour moi. Et puis me concernant plus spécifiquement, je dirais que je me suis toujours intéressée à la théorie féministe et je pense vraiment que beaucoup de textes de la théorie féministe, en particulier, beaucoup de textes nord-américains, et aussi bien ceux de Judith Butler que de Martha Nussbaum, qui sont pourtant des textes de traditions différentes ou d'autres, ce sont des textes qui ont permis des inventions philosophiques incroyables, qui ont permis des inventions de concepts et qui ont permis aussi de nouvelles écritures philosophiques. Et que tout ça a beaucoup enrichi la philosophie, qui a quand même été pendant longtemps, bien plus que d'autres disciplines, une discipline très masculine parce qu'elle se prétendait neutre et que finalement derrière la neutralité. Donc il y avait l'idée de la possibilité de l'invention. Après, le problème de la théorie féministe, c'est qu'on peut être vite du côté uniquement du combat, de la dénonciation. Oublier aussi l'argumentation. Et dans le fait d'écrire à deux, ben on se rappelle toujours cette question de la nécessaire argumentation. Et donc ça, c'était aussi un point important. Et puis après, je crois vraiment que la théorie féministe, que les pratiques féministes, que ce féminisme de mouvement qui se déploie, permet vraiment de revisiter des mots, de revisiter des pratiques, patrimoine, matrimoine, et après tout, matrimoine, c'était un mot de l'ancien français. Au Moyen-Âge, les hommes déclaraient des patrimoines et les femmes déclaraient des matrimoines, donc les nouvelles utilisations du matrimoine, ça renvoie aussi à une histoire, la grève. À partir du moment où on pense des grèves féministes. Ces grèves féministes, elles déplacent la notion de travail. Elles font considérer comme travail ce qui est un travail gratuit, une activité non rémunérée, tout ce qui relève d'une partie du soin, du travail domestique. Donc la grève féministe, elle déplace la grève. De la même manière, ce qui a beaucoup fait parler ces derniers temps et qui correspond à la conclusion du livre « Le YEL », qui mélange le « il » et le « elle », c'est justement ce qu'on a fait dans le livre. Donc il n'y a pas de travail à deux, en particulier hommes et femmes, sur ces sujets-là, sans une écriture, sans une invention de concept, et sans aussi, quelque part, des inventions de mots qui correspondent à des inventions de pratiques et qui mettent des noms, justement, sur des pratiques.
Oui, parce que juste sur ce plan-là, la question aussi des pratiques, c'est la question du langage, forcément. Et le langage, c'est loin d'être une surface neutre d'enregistrement d'une réalité. C'est une fabrication de pouvoir, c'est une dimension du pouvoir. Et donc, se rendre attentif à la manière dont le langage, au fond, est revisité par les pratiques féministes contemporaines, avec des phénomènes de retraduction. C'est très, très intéressant. Il n'y a pas de mouvement qui existe sans ce phénomène de retraduction. C'est-à-dire, effectivement, Fabienne a parlé de la grève. C'est sûr que la fameuse grève archétypale 19e siècle, avec un lieu cadastré, une usine, avec des ouvriers à l'intérieur, un travail productif séparé du travail reproductif, etc., ça a complètement volé en éclats. Si on prend au sérieux la grève féministe, c'est justement la remise en question de cette frontière entre travail productif et travail reproductif. C'est donc une toute autre géographie, c'est plus l'usine simplement, c'est la maison, ça déplace complètement tout. Et aujourd'hui, le concept de grève, entre guillemets, on peut plus le formuler sur la base du 19e siècle, sur la base simplement d'une question de formulation de classe, entre guillemets, séparée d'argumentaire de genre. C'est là où la perspective intersectionnelle est aussi intéressante, parce que ça redessine les frontières. Et puis, c'est aussi se rendre attentif à des nouveaux mots qui apparaissent ou d'anciens mots qui réapparaissent comme des nouveaux mots. Bref, toute cette vitalité de la langue, elle est hyper intéressante. Parce que finalement, et c'est là où... Qu'est-ce que c'est qu'être... La langue, c'est vraiment une dimension très intéressante. Enfin, on vit dans la langue et en même temps, on n'est pas propriétaire de la langue. On ne peut pas avoir de relation de souveraineté à la langue. C'est quelque chose qu'on est... On est traversé par la langue. Et en même temps, cette langue, elle ne s'arrête jamais à des frontières. Donc, il y a déjà, en quelque sorte, une internationale des langues. Même si des langues prennent le dessus sur d'autres, etc., il n'empêche qu'il y a des mots qui passent d'une frontière à une autre, qui sont... Et donc, cette internationale de la langue, elle est très intéressante parce qu'elle n'est pas liée à un schéma de souveraineté, à un schéma de frontière, à un schéma, effectivement, moi, ce que j'appelle un schéma de cadastre, quoi, on cadastre un territoire, on l'identifie, on met un drapeau dessus, on dit ça, c'est de la souveraineté. Non, la langue, c'est pas ça. Et ça ne pourra jamais être ça. Et c'est pour ça que tous ceux qui aujourd'hui font la police de la langue, ce sont des maîtres chiens de la souveraineté.
Alors, on va devoir conclure, juste pour vous dire que, et vous l'avez abordé, c'est parfait. En tout cas, pour moi, vous avez un écrit du YEL. Vraiment. Et d'ailleurs, je vous dirai aussi, vous avez dans ce livre abordé une notion, Guillaume Leblanc, qui est précieuse aussi pour nous toutes et nous tous, la question de la complicité. Et je pense qu'il est, ce livre, cette question du complice, de la complicité du côté des femmes. Je finirai juste par vous dire que cette belle phrase peut-être de Maya Angelou, qui est... une poétesse, écrivaine, actrice et militante américaine pour les droits civiques, et qui disait « Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Je vous remercie à toutes et à tous pour cette participation. Merci. Merci pour ce livre.